Le magnétiseur, quatrième partie, lettre de Maria à Adelgonde. Te voilà donc délivré des périls et des soucis de cette vilaine guerre, et tu as enfin trouvé un asile sûr. Non, je ne puis te dire, cher et tendre ami, ce que j'ai ressenti lorsqu'après un si long intervalle, j'ai revu les charmants petits caractères. J'ai failli, dans l'excès de mon impatience, déchirer cette lettre si chère et trop solidement cachetée. D'abord, j'ai lu et relu, sans savoir pour cela davantage de ce que tu me disais, jusqu'à ce qu'enfin, devenu plus tranquille, j'ai appris avec ravissement que ton frère chéri, mon bien-aimé Hippolyte, se porte bien et que je le reverrai bientôt. Ainsi, aucune de mes lettres ne t'est parvenue ? Ah, chère Adelgonde, ton ami a été bien malade, très malade. Mais à présent, il n'en est plus question, quoique mon mal fût tellement incompréhensible, même pour moi, qu'à présent encore je frémis en y pensant. Et cette émotion, disent mon frère et le médecin, est encore un symptôme de maladie qui doit être radicalement détruit. N'exige pas que je te dise ce que j'ai eu par le fait, je ne le sais pas moi-même. Nulle douleur, nulle souffrance qui puisse se désigner par un nom connu, et cependant, j'avais absolument perdu et ma gaieté et mon repos. Je voyais tout sous un autre aspect. Des mots dits à haute voix, des pas légers, me perçaient la tête comme des aiguillons. Parfois, autour de moi, mille objets inanimés prenaient une voix, un accent, et dans des langues merveilleuses m'agaçaient jusqu'à la plus extrême impatience. Les fantaisies les plus bizarres venaient m'arracher à la vie réelle. Croirais-tu bien, ma bonne Adelgonde, que les folles histoires de féeries, de l'oiseau vert, du prince Facardine, de la princesse de Trébizonde, et que sais-je encore, comme la tante Clara savait si bien nous les raconter, se revêtirent pour moi d'un caractère de réalité vraiment effrayant, car c'était moi-même qui subissais les transformations dont le méchant magicien me rendait victime. Oui, c'est bien ridicule à dire à quel point ces sottises agissaient sur moi, et d'une manière si pernicieuse que je devins de jour en jour plus faible et plus languissante. Tantôt, je m'affligeais mortellement pour un rien, une bagatelle. Tantôt, je me réjouissais jusqu'à l'extravagance pour quelque pareille niaiserie. Et mes forces vitales se consumaient ainsi dans les violents accès d'une volonté inconnue qui absorbait tout mon être. Certains objets, qui auparavant m'étaient tout à fait indifférents, non seulement me frappaient avec vivacité, mais me faisaient éprouver moi-même d'indicibles tourments. C'est ainsi que j'avais conçu une telle horreur des lys que je m'évanouissais à l'aspect de leurs fleurs, fussent-elles à une distance considérable, car je voyais s'élancer de leurs blancs calices des petits basilics luisants et qui dardaient leurs langues aiguës contre moi. Mais comment, chère Adelgonde, te donner une idée même imparfaite de cet état singulier auquel je ne pourrais pas donner le nom de maladie s'il ne m'avait affaibli progressivement au point que j'entrevoyais à la fin ma mort comme imminente. Maintenant, je veux te confier quelque chose de particulier, c'est ce qui a rapport à ma guérison. Je la dois à un excellent homme qu'Otmar avait déjà introduit dans sa maison et qui, parmi tous les fameux et habiles médecins de la résidence, est assurément le seul en possession du secret de guérir promptement et infailliblement une aussi étrange maladie que la mienne. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que dans mes rêves et mes visions habituelles, je voyais constamment apparaître un bel homme grave qui, malgré sa jeunesse, m'inspirait une vénération profonde et qui, sous divers costumes, mais toujours avec une robe traînante et une couronne de diamants sur la tête, jouait dans le monde imaginaire de mes contes magiques le rôle du roi romantique des esprits. Une liaison intime et tendre devait exister entre nous, car il me témoignait une affection extrême en retour de laquelle j'aurais donné ma vie. Tantôt, il me faisait l'effet du sage roi Salomon, et d'autres fois, par une aberration inconcevable, je pensais malgré moi au Sarastro de la flûte enchantée que j'ai vu représenter dans la capitale. Hélas, cher Aldegonde, juge de mon effroi, lorsqu'au premier abord, je reconnus dans Alban le roi romantique de mes rêves. Alban est en effet ce médecin extraordinaire que, bien antérieurement, Otmar avait amené une fois de la résidence comme son ami de cœur, et qui, néanmoins, pendant ce court séjour, avait si peu provoqué mon attention que je ne pouvais même pas ensuite me rappeler ses traits. Mais lorsqu'il revint appelé pour me donner ses soins, il me fut impossible de définir l'étrange sensation dont son aspect me pénétra. Alban, ayant en général dans sa physionomie, enfin dans toutes ses manières, une certaine dignité, je dirais presque quelque chose d'impératif, qu'il élève au-dessus de son entourage, il me sembla, dès qu'il eut fixé sur moi son regard sérieux et perçant, que je devais me soumettre sans restriction à tout ce qu'il prescrivait, comme s'il lui suffisait de vouloir bien positivement ma guérison pour l'opérer. Otmar disait qu'on allait me traiter par le magnétisme, et qu'au moyen de certains procédés, Alban devait me mettre dans un état d'exaltation et de sommeil factice, grâce auquel je concevrais moi-même exactement le caractère de ma maladie et je préciserais la manière de me rétablir. Tu ne saurais croire, chère Adelgonde, quel sentiment extrême d'inquiétude, de crainte, d'épouvante m'agitait à la pensée de cette existence sans conscience et pourtant supérieure à la vie réelle. Cependant, je ne le sentais que trop clairement. J'aurais fait de vains efforts pour me soustraire à ce qu'Alban avait résolu. Les moyens en question furent employés, et en dépit de ma répugnance, de mes craintes, je n'en ai éprouvé que des effets salutaires. Mes couleurs, mon enjouement sont revenus, et au lieu de cette tension névralgique effrayante, pendant laquelle la chose la plus indifférente devenait souvent pour moi un supplice, je me trouve dans un état passablement tranquille. Ces folles visions de mes rêves ont disparu, et le sommeil me restaure. Ou les images bizarres qui m'apparaissent en dormant me recréent au lieu de me tourmenter. Pense un peu, chère Adelgonde, je rêve souvent maintenant, par exemple, que je puis les yeux fermés, comme si un sens nouveau m'était donné, reconnaître les couleurs, distinguer les métaux, lire, etc., dès qu'Alban me le demande. Souvent même, il m'ordonne d'examiner mon intérieur et de lui dire tout ce que j'y vois, ce que je fais aussitôt avec la plus grande précision. Parfois, je suis contrainte d'arrêter exclusivement ma pensée sur Alban lui-même. Je le vois devant moi et je tombe insensiblement dans un état de rêverie où, perdant enfin la conscience de mon individualité, j'entre dans une sphère d'idées étrangères qui ont l'éclat et la pureté de l'or et qui me pénètrent d'une animation singulière. Je reconnais que c'est Alban qui formule en moi ses divines pensées, car il occupe alors lui-même, comme une flamme sacrée et vivifiante, le foyer de mon être qu'il dirige. Et s'il me quitte, spirituellement s'entend, l'éloignement physique est indifférent, aussitôt tout le prestige s'évanouit. Ce n'est que dans cet état de sympathie et de transsubstantiation, pour ainsi dire, que je jouis réellement de la vie, et s'il dépendait de lui de rompre cette union de mes principes intelligents, mon être succomberait sans doute à l'amertume de ce sombre abandon. Oui, tandis que j'écris ces lignes, je ne le sens que trop, c'est lui seul qui m'inspire au moins les termes propres à expliquer cette mystérieuse corrélation de lui à moi. Je ne sais, ma bonne Adelgonde, Si je ne te parais pas ridicule ou peut-être atteinte d'une manie fantastique, et surtout si tu me comprends. En ce moment même, il m'a semblé que tes lèvres avaient murmuré doucement et tristement le nom d'Hippolyte. Crois bien que jamais Hippolyte n'a été aimé de moi plus vivement. Je le nomme bien souvent dans mes prières à Dieu. Que les saints anges le préservent au milieu des batailles sanglantes de toute atteinte meurtrière. Mais depuis qu'Alban est mon seigneur et maître, il me semble que ce n'est que par lui que je peux aimer plus ardemment et plus profondément mon Hippolyte. J'imagine avoir la puissance de m'élancer vers lui, tel que son génie protecteur, et de le couvrir de mes prières comme un séraphin de son aile, de manière à déjouer toutes les trahisons du démon du meurtre. Alban, l'homme excellent et sublime, me conduira dans ses bras comme une épouse sanctifiée par cette vie de spiritualisme. Mais l'enfant inexpérimenté peut-il se hasarder, sans son maître, dans les orages du monde? Ce n'est que depuis peu de jours que j'ai reconnu tout à fait la véritable magnanimité d'Alban. Mais croirais-tu, chère Adelgonde, que lorsque j'étais plus malade et dans mon excès d'irritation, il s'élevait souvent dans mon âme d'odieux soupçons contre mon seigneur et mon maître. Ainsi, je croyais avoir trahi l'amour et la fidélité quand je voyais s'élever devant moi, même au milieu de mes prières pour mon Hippolyte, la figure d'Alban, irritée et menaçante de ce que je voulus sans lui me hasarder à franchir les limites qu'il m'avait prescrites, comme un enfant mutin et indocile au conseil de son père qui sort du jardin paisible pour aller courir dans la forêt où de méchantes bêtes, avides de sang, guettent leur proie cachée derrière les buissons verdoyants et fleuris. Ah, Adelgonde, que ces doutes cruels me rendirent malheureuse! Moque-toi bien de moi. Si je te dis que j'en vins jusqu'à penser qu'Alban me tendait un piège infernal et songeait, sous les saintes apparences d'un sauveur miraculeux, à allumer dans mon cœur un amour terrestre. Oh, Hippolyte! Dernièrement, nous étions familièrement réunis le soir, mon père, mon frère, le vieux Bickert et moi. Alban, suivant son habitude, était encore engagé dans une longue promenade. Il était question des rêves, et mon père ainsi que Bickert nous avaient raconté toutes sortes d'histoires merveilleuses et récréatives. Alors Otmar prit aussi la parole. Il raconta comment un ami d'Alban, d'après ses conseils et sous sa surveillance, était parvenu à gagner l'ardent amour d'une jeune fille en se tenant près d'elle à son insu durant son sommeil et en maîtrisant en sa propre faveur, par des moyens magnétiques, la direction de ses pensées. En outre, il arriva que mon père ainsi que notre vieil ami Bickert se déclarèrent, comme ils ne l'avaient jamais fait en ma présence, les adversaires décidés du magnétisme et, en quelque sorte, les accusateurs d'Alban. Tous les doutes, tous les soupçons que j'avais conçus contre lui furent réveillés au fond de mon âme. Je supposais de nouveau qu'il se servait de manœuvres mystérieuses et diaboliques pour me faire son esclave, et qu'il m'ordonnerait alors d'oublier absolument Hippolyte pour être lui seul l'objet de mes pensées et de mes sentiments. Une émotion inconnue jusqu'alors me pénétra d'une anxiété mortelle. Je voyais Alban dans sa chambre, entouré d'instruments bizarres, de vilaines plantes, de pierres, de métaux rayonnants et d'animaux hideux, décrivant des cercles dans l'air avec des mouvements convulsifs. Son visage, ordinairement si calme et si grave, affreusement contracté, m'offrait l'aspect d'un larve hideux, et dans l'orbe de ses yeux agrandis et d'un rouge ardent, serpentaient avec une vitesse incroyable d'immondes basiliques, lisses et étincelants, tels que ceux que j'avais cru voir autrefois s'élancer de la corolle des lys. Tout à coup, il me sembla qu'un torrent glacial glissait le long de mon dos. Je me réveillais de mon état d'évanouissement. Alban était devant moi, mais, oh grand Dieu, ce n'était pas lui, non! C'était le larve épouvantable, création fantastique de mon imagination frappée. Oh, combien ne fus-je pas honteuse de moi-même le lendemain matin! Alban était instruit de mes doutes injurieux, et son affectueuse bienveillance la seule empêchait de me le faire sentir. Mais il savait comment je m'étais représenté sa personne, puisqu'il lit au-dedans de mon être mes pensées les plus secrètes, que ma vénération et ma soumission pour lui ne me permettent pas d'ailleurs de vouloir lui cacher. Du reste, il attache très peu d'importance à cette crise nerveuse et l'attribue uniquement à la vapeur du tabac turc que mon père avait fumé ce soir-là. Ah, si tu avais pu voir de quelle prévenante sollicitude, de quel soin tout paternel m'entoura alors mon excellent maître. Ce n'est pas seulement le corps qu'il sait conserver en santé, non. C'est l'esprit, surtout, qui l'initie aux délices d'une vie supérieure. Si ma bonne amie Adelgonde pouvait seulement être auprès de moi et jouir de la vie réellement bienheureuse que nous menons ici, au sein d'une paix modeste. Bickert est toujours le joyeux vieillard d'autrefois. Mon père et Otmar seuls montrent parfois une disposition d'humeur singulière et un peu triste. L'uniformité de nos habitudes n'est pas faite pour plaire sans doute aux hommes lancés dans le tourbillon du monde et des affaires. Alban nous entretient en langage pompeux des traditions et des mythes sacrés de l'Inde et de l'Antique Égypte. Souvent la préoccupation de ces étranges mystères provoque en moi, surtout sous les grands hêtres du parc, un sommeil insurmontable et vivifiant, dont je me réveille animé d'un nouveau bien-être. Je me compare à peu près dans ces occasions à Miranda, dans La Tempête de Shakespeare, quand Prospero cherche en vain à la tenir éveillée pour écouter sa narration. Ce sont justement les paroles de Prospero qu'Otmar m'adressait encore l'autre jour. « C'est de ta fatigue, tu ne peux pas faire autrement. » Maintenant, ma chère Adelgonde, tu connais entièrement ma vie intérieure, je t'ai tout confié, et cela soulage mon cœur. Les lignes ci jointes pour Hippolyte, etc., etc. »